Lettre de Julie de Lespinasse à Monsieur de Guibert. Lettre 8, jeudi 24 juin 1773. Trois fois dans une semaine, c'est trop, beaucoup trop, n'est-ce pas? Mais c'est que je vous aime assez pour croire vous avoir inquiété. Vous devez avoir un peu d'impatience de savoir si j'existe encore. Eh bien oui, je suis condamnée à vivre. Il ne m'est plus libre de mourir. Je ferai mal à quelqu'un qui aime à vivre pour moi. J'ai eu de ses nouvelles du 10. Elles ne me rassurent pas tout à fait. Mais j'espère que cet accident n'aura pas de suite funeste. J'espère même qu'il hâtera son retour. Mais les chaleurs lui sont mortelles. Il faut donc attendre. Ah, mon Dieu! Toujours voir éloigné, différer le plaisir, être accablé, abîmé par le malheur. Si vous saviez combien j'aurais besoin de me reposer. Depuis un an, je suis sur la roue. Vous, seul, peut-être, avez eu le pouvoir de suspendre quelques instants ma douleur. Et ce bien d'un moment m'a attaché à vous pour jamais. Mais dites-moi, ma dernière lettre ne vous a-t-elle pas déplu? Ne suis-je point mal avec vous? J'en serais bien affligée. Mais je suis comme Madame du Châtelet. Je ne connais guère le repentir. Répondez-moi avec la même franchise que j'ai employée avec vous. Estimez-moi assez pour ne pas me dire la vérité à demi. Dites-moi tout le mal que vous pensez de moi. Et ce n'est pas, comme dit Monsieur de La Rochefoucauld, pour le plaisir d'en entendre parler que je vous demande de m'en dire. Mais c'est pour juger si vous êtes mon ami, si vous le serez. En un mot, j'attache assez d'intérêt à notre liaison pour être pressée de savoir ce qu'il y a eu de surprise et de méprise dans ce qui nous a rapprochés l'un de l'autre. L'on dit qu'il n'y a rien de plus fort et de mieux fondé que les sentiments dont on ne peut pas se rendre raison. Si cela est vrai, je dois compter sur votre amitié. Mais vous ne voulez pas que j'y regarde? Pourquoi cela? Est-ce que je ne serai pas contente? Ne voyez-vous pas que le mouvement le plus naturel, lorsqu'on acquiert un nouveau bien, c'est de l'examiner, c'est de l'observer de tous les côtés? Cette occupation est peut-être la jouissance la plus vive que donne la possession. Mais vous ne connaissez pas tous les détails et tous les plaisirs de la sensibilité. Tout ce qui est élevé, tout ce qui est noble, tout ce qui est grand, voilà ce qui est de votre ressort. Les héros de Corneille fixent votre attention. À peine avez-vous jeté les yeux sur les petits pâtres de Gessner. Vous aimez à admirer, et moi je n'ai qu'un besoin, qu'une volonté, c'est d'aimer. Mais qu'importe, nous n'aurons pas la même langue. Il y a une sorte d'instinct qui supplée à tout. Mais rien ne supplée à 1000 lieues de distance. J'étais si troublée la dernière fois que je ne vous ai pas dit que Diderot est en Hollande. Il y est si bien, il y a déjà tant d'amis qu'il n'avait jamais vus, qu'il est fort possible qu'il ne revienne jamais à Paris, et qu'il oublie qu'il était en chemin pour aller en Russie. C'est un homme extraordinaire. Il n'est pas à sa place dans la société. Il devait être chef de secte, un philosophe grec, instruisant, enseignant la jeunesse. Il me plaît fort, mais rien de toute sa manière ne vient à mon âme. Sa sensibilité est à fleur de peau. Il ne va pas plus loin que l'émotion. Je n'aime rien de ce qui est à demi, de ce qui est indécis, de ce qui n'est qu'un peu. Je n'entends pas la langue des gens du monde. Ils s'amusent et ils bâillent. Ils ont des amis et ils n'aiment rien. Tout cela me paraît déplorable. Oui, j'aime mieux le tourment qui consume ma vie que le plaisir qui engourdit la leur. Mais avec cette manière d'être, on n'est point aimable. Eh bien, on s'en passe. Non, on n'est point aimable, mais on est aimé. Et cela vaut mille fois mieux que de plaire. Que je voudrais savoir si vous irez en Russie. J'espère que non. Et c'est comme vous dites, parce que je le désire. Il me semble que de nulle part au monde, les lettres ne viennent si lentement que de la Russie. J'ai relu deux fois, trois fois votre lettre. D'abord, parce qu'elle était difficile. Et puis, parce que j'y étais difficile. Ah, si vous saviez combien de fautes d'omission j'y ai trouvées. Mais pourquoi n'en feriez-vous pas? Monsieur d'Alembert attend votre lettre avec grande impatience. Monsieur de Crillon vous a prévenu. Votre ami, Monsieur d'Aguesseau, me parut, au moins le jour qu'il m'a apporté votre lettre, bien extraordinaire. Il a l'air de quelqu'un qui est troublé. Ses mouvements ont quelque chose de convulsif. Il dit qu'il est malade, et je le crois. Il a formé le projet d'aller à Spa. Je ne sais, mais je suis bien aise qu'il ne soit pas avec vous. Adieu. Je vous ai accablé de questions, vous ne répondez point. Je ne vous demande pas s'il vous serait agréable de savoir les nouvelles, parce qu'il serait au-dessus de mon pouvoir de m'en occuper. Je sais ce qu'on ne sait point encore dans le public, que c'est M. d'Aranda qui est nommé ambassadeur d'Espagne, à la place de M. de Fuentes, que celui-ci a la première place de sa cour. Tout cela ne vous fait rien, et ce qui vous étonnera, c'est que cela me fait beaucoup. Ne faut-il pas être folle pour aller s'intéresser à ce qui se passe à Madrid? Adieu encore une fois. Mon genre de folie est digne de votre pitié. De vos nouvelles, souvent, longuement, partagez, si vous voulez, le plaisir que vous me ferez. Combien y a-t-il de lettres que vous seriez plus pressé d'ouvrir que la mienne? 3, 10. Lettre 9. Jeudi, 1er juillet 1773. Oh, si vous saviez comme je suis injuste, combien je vous ai accusé, combien je me suis dit que je ne devais rien attendre ni désirer de votre amitié. Et la cause de tout cela, c'est que je ne recevais point de vos nouvelles. Dites-moi donc pourquoi on attend, pourquoi on exige de quelqu'un sur qui on ne compte pas. Mais vraiment, je le crois, vous me pardonnez mes inconséquences. Mais moi, je ne dois pas être si indulgente. Elle me touche de plus près que vous. Je ne sais plus ce que je vous dois. Je ne sais plus ce que je vous donne. Je sais que votre absence me pèse. Et je ne saurais me répondre que votre présence me fit du bien. Mais mon Dieu, quelle situation horrible que celle où le plaisir, ou la consolation, ou l'amitié, où tout, enfin, devient poison. Que faire, dites-moi? Où retrouver le calme? Je ne sais où je prends la force de résister à des impressions aussi profondes et aussi diverses. Oh, combien de fois l'on meurt avant que de mourir! Tout m'afflige et me nuit, et l'on m'ôte la liberté de me délivrer du fardeau qui m'accable. Au comble du malheur, on veut que je vive. On me déchire également, et par le désespoir, et par l'attendrissement qu'on me cause. Et mon Dieu, aimer, être aimé, n'est-ce donc pas un bien? Je souffre tous les maux, et j'ai encore à me reprocher de troubler le repos, de faire le malheur de ce que j'aime. Mon âme est épuisée par la douleur. Ma machine est détruite et cependant je vis, et il faut que je vive. Pourquoi le voulez-vous aussi? Que vous importe ma vie? Quel prix voulez-vous y mettre? Que suis-je pour vous? Votre âme est si occupée, votre vie si remplie et si agitée. Comment vous reste-t-il le temps de plaindre mes maux? Et comment avez-vous donc assez de sensibilité pour répondre à mon amitié? Oui, vous êtes trop aimable. Vous avez le don de l'intérêt. Et il me semble que je ne devais point vous en inspirer. Mes lettres vous sont nécessaires. Cela peut-il être vrai? Oui, puisque vous le dites. Mais pourquoi avez-vous donc été si longtemps à m'écrire? Pourquoi ne pas m'adresser directement vos lettres? Strasbourg les a retardées de 2 ou 3 jours. Ce n'est rien pour quelqu'un qui emploie 8 mois pour satisfaire sa curiosité, mais c'est beaucoup trop pour quelqu'un qui ne connaît plus qu'un genre d'intérêt dans la vie. Je suis ravie, et c'est par là que je voulais commencer, que vous ayez été content du roi de Prusse. Ce que vous me dites sur cette vapeur magique qui l'environnait est si charmant, si noble, si juste, que je n'ai jamais pu m'en taire. Je l'ai lu à tous ceux qui méritaient de l'entendre. Madame Geoffrin a voulu que je lui en donnasse une copie. Je l'ai envoyée plus loin, et cela sera bien senti. Vous n'allez donc pas en Russie. Cela me fait un plaisir sensible. Oui, laissez-moi encore vous dire combien je trouve aimable votre amitié. Vous répondez à tout. Vous causez, vous êtes encore prêt lorsque vous êtes à 1000 lieues. Mais d'où vient donc que cette femme ne vous aime pas à la folie, comme vous voudriez l'être, comme vous méritez de l'être? À quoi donc peut-elle employer son âme et sa vie? Ah oui, elle n'a ni goût, ni sensibilité, j'en suis sûre. Elle devrait vous aimer, ne fût-ce que par vanité. Mais de quoi vais-je me mêler? Vous êtes content, ou si vous ne l'êtes pas, vous aimez le mal qu'elle vous fait. Pourquoi donc vous plaindrais-je? Mais cette autre malheureuse personne, c'est elle qui m'intéresse. Lui avez-vous écrit? Son malheur est-il toujours aussi profond? Je dois vous dire que l'autre jour, chez la comtesse de Boufflers, on parla beaucoup de vous et du connétable. La jeune de Boufflers me dit qu'elle vous croyait fort amoureux, que cela lui avait fait regarder avec attention Madame de... Il y avait là un homme qui assura que vous ne l'étiez plus, que vous l'aviez aimé, que cela était usé, et qu'il croyait que vous ne seriez jamais longtemps heureux ou malheureux par la même femme, que l'activité de votre âme ne lui permettait pas de se fixer longtemps au même objet. Et de là, une dissertation spirituelle sur des choses sensibles et sur la passion. La comtesse de Boufflers finit par dire qu'elle ne savait pas de qui vous étiez amoureux, mais que ce n'était plus de Madame de... et qu'elle jugeait, par les billets qu'elle avait reçus de vous à votre départ, que vous étiez fortement attaché, et que votre éloignement déchirait votre âme. Et puis cette réflexion, si naturelle, et cependant, pourquoi aller en Russie? Mais peut-être c'est pour se guérir, peut-être est-ce pour étouffer le sentiment de la personne qu'il aime. Enfin, après bien des conjectures sans intérêt, on vint à me demander si je vous aimais, si je vous connaissais beaucoup, car je n'avais pas dit un mot. Oui, je l'aime beaucoup, et quand on le connaît un peu, il n'y a que cette manière de l'aimer. Eh bien, vous savez donc ses liaisons, quel est l'objet de sa passion? Eh non, en vérité, je n'en sais rien du tout. Je sais qu'il est à Berlin, qu'il se porte bien, que le roi l'a reçu parfaitement, qu'il verra ses troupes, qu'il ira en Silésie. Voilà ce que je sais. Voilà ce qui m'intéresse. » Et l'on parla de l'opéra, de Madame la Dauphine, de mille choses intéressantes. Je vous conte tout cela pour vous dire que je n'aime pas que tout le monde connaisse vos affections, vos dégoûts, vos inconstances. Je ne voudrais entendre parler que de votre mérite, de vos talents et de vos vertus. Ai-je tort? Vous vouliez plusieurs lettres à Vienne, et il est possible que vous n'en ayez point, ou que vous en soyez accablé. Je vous ai écrit 3 fois à Berlin depuis le 6 juin. Sans doute, on vous renverra vos lettres. Si elles attendaient votre retour, elles seraient de vieille date lorsque vous les recevriez. Mais je m'en rapporte au besoin que vous avez de recevoir de ces lettres dont la privation vous tourne la tête. En grâce, ne me traitez pas si bien. Ne m'écrivez pas à la première, parce qu'alors, sans vous en apercevoir, vous ne m'écrivez que pour m'avoir écrit. Ne venez à moi que lorsque vous n'avez plus rien à lui dire. Cela est dans l'ordre. L'amitié ne doit arriver qu'après. Quelquefois, elle est à une grande distance. Quelquefois aussi, elle est bien près, trop près peut-être. Les malheureux aiment, ils aiment tant ce qui les console. Il est si doux d'aimer ce qui plaît. Je ne sais pourquoi, j'ai dit quelque chose qui m'avertit que je pourrais dire de votre amitié ce que le comte d'Argenson dit en voyant pour la première fois la jolie mademoiselle de Berville qui était sa nièce. Ah, elle est bien jolie. Il faut espérer qu'elle nous donnera bien du chagrin. Qu'en pensez-vous? Mais vous êtes si fort, si modéré, et surtout si occupé, que cela vous met à l'abri des grands malheurs et des petits chagrins. Voilà comme il faut avoir de l'esprit, comme il faut avoir des talents. Cela rend supérieur à tous les événements. Quand on est avec cela aussi honnête et surtout aussi sensible que vous, on est sans doute affecté douloureusement, on l'est assez pour contenter l'amitié ordinaire, mais on est bientôt détourné des mouvements de l'âme lorsque la tête est vivement et profondément occupée. Oui, je vous le prédis et j'en suis bien aise. Vous n'éprouverez plus de ces malheurs qui bouleversent l'âme. Vous êtes assez jeune pour recevoir encore de légères secousses. Mais je vous réponds que vous vous mettrez bientôt en mesure. Ah, je vous en réponds, vous ferez une grande fortune. Vous aurez une grande célébrité. Je vais vous faire horreur. Je vais vous montrer une âme bien petite, bien commune. Mais je ne saurais qu'y faire. Toutes les fois que je viens à vous regarder dans l'avenir, je me sens glacée. Et ce n'est point parce que ce qui est grand attire l'admiration et m'écrase. Mais c'est que ce qui est grand mérite bien rarement d'être aimé. Convenez que je suis presque aussi bête que je suis folle. Je suis bien pis que cela. J'ai ce certain genre, le seul mauvais à ce que dit Voltaire. Je l'ose nommer. Je vous en ai si bien pénétré que je n'ai pas besoin de vous dire que c'est le seul ennuyeux. La différence de nos affections, la voici. C'est que vous êtes au bout du monde, c'est que vous êtes assez calme pour jouir de tout. Et moi, je suis à Paris, je souffre, et je ne jouis de rien. Voilà tout, comme dit Marivaux. J'ai reçu beaucoup de détails. Ils ont calmé mon désespoir. J'ai vu qu'il n'y avait rien à craindre de ce dernier accident. Mais concevez s'il est possible d'avoir un moment de repos en tremblant sans cesse pour la vie de quelqu'un à qui l'on sacrifierait la sienne à tous les instants. Ah, si vous saviez combien il est aimable, combien il est digne d'être aimé. Son âme est douce, tendre et forte. je suis assurée que c'est l'homme du monde qui vous plairait et vous conviendrait le plus. C'est vous qui me donnez des défauts. Vous en avez le privilège exclusif. Je suis, avec tous mes autres amis, la meilleure et la plus facile de toutes les créatures. Il me semble qu'ils me font toujours grâce et qu'ils me préviennent sur tout. Je passe ma vie à les remercier, à les louer, et je me plains de vous, mais ce n'est qu'à vous. Je vous critique, je vous désapprouve. Pourquoi cette différence? Mais croyez-vous qu'il n'y ait qu'un an que nous nous connaissons? Cela me paraît impossible. La raison que vous me donnez pour le refus du connétable n'est pas bien bonne. Vous savez que j'avais un copiste sûr. Lettre 10. Mercredi au soir, 14 juillet 1773. Mon Dieu, que vous êtes aimable, et que vous m'étonnez. En revenant à moi d'aussi loin, étant aussi occupé, aussi dissipé, comment se fait-il que vous pensiez même à quelqu'un qui ne peut avoir de mérite auprès de vous, que celui de vous avoir paru capable d'aimer et de souffrir? De quel usage vous seront jamais ces tristes facultés? Vous n'avez pas besoin d'être aimé, et vous seriez fâché de me faire souffrir. Quel prix pouvez-vous donc mettre à une liaison où tout l'avantage est de mon côté? Vous me faites des questions auxquelles je ne suis pas en état de répondre. Hélas, il faudrait être calme pour répondre à l'indifférence qui interroge. Le malheur, la durée des souffrances m'ont mise dans une espèce de stupidité qui m'ôte le pouvoir de penser. Il ne me reste tout juste de raison que ce qu'il en faut pour me juger, pour condamner tous mes mouvements, pour m'affliger de tous mes sentiments. Mon âme à la fièvre continue avec des redoublements qui me conduisent souvent jusqu'au délire. Oh, s'il était vrai que de l'excès du mal on voit naître quelquefois le bien, je devrais espérer quelque soulagement. Non, je ne puis plus suffire aux diverses agitations qui déchirent mon cœur, et je me reproche la faiblesse qui m'entraîne à vous montrer ce que je souffre. Il me semble que je ne veux point exciter votre sensibilité. Et si j'en avais, ce n'est pas de ma douleur que je voudrais la nourrir. Non, vous ne me devez rien, et je vais vous le prouver. Je déteste, j'abhorre la fatalité qui m'a forcé à vous écrire ce premier billet. Et dans ce moment, peut-être, elle m'entraîne avec autant de puissance. Je ne voulais pas vous parler de moi. Je voulais simplement vous remercier de m'avoir écrit avant que d'arriver à Vienne. Je voulais vous répondre et non pas vous parler. Je n'accepte aucune de vos louanges, et je vais vous étonner, c'est qu'elles ne me louent point. Que m'importe que vous jugiez que je ne suis pas bête. Il est singulier, mais il est pourtant vrai que vous êtes l'homme du monde à qui je me soucie le moins de plaire. Expliquez-moi cette bizarrerie. Expliquez-moi aussi pourquoi je vous juge avec une sévérité insupportable. Pourquoi je me trouve injuste à tout moment avec vous. Pourquoi, ne croyant pas à votre amitié, j'en chicane toujours les expressions. Pourquoi, enfin, ayant à me louer de vous, je serais tenté de m'en plaindre. Oui, ma raison me dit que je devrais vous demander pardon, car ma pensée vous offense sans cesse, et mon âme se révolte au seul sentiment que vous pourriez me faire grâce. Et non, je n'en veux point. Jugez-moi sévèrement. Voyez toute mon injustice, voyez toute mon inconséquence, et laissez-vous aller au mouvement que cela doit vous inspirer. Oh, je vous l'ai dit, nous ne ferons point de tout ceci l'amitié de Montaigne et de la Boétie. Ces gens-là étaient calmes. Ils n'avaient qu'à se livrer aux impressions douces et mutuelles qu'ils recevaient. Et nous, nous sommes malades, mais avec cette différence que vous êtes un malade plein de force et de raison, qui se conduira de manière à jouir incessamment de la plus excellente santé. Tandis que moi, je suis atteinte d'une maladie mortelle, dans laquelle tous les soulagements que j'ai voulu apporter se sont convertis en poison et n'ont servi qu'à rendre mes maux plus aigus. Ils sont d'une nature étrange. Ils ont dépravé ma raison et égaré mon jugement. Car je ne voudrais point guérir. Je ne me sens que le besoin de mourir. Ah, mon Dieu, que je serais fâchée de dévorer 100 volumes en 2 mois de temps, que je serais fâchée de valoir autant que vous et d'être destinée à autant de succès et à autant de gloire. Si vous saviez combien mon âme est petite. Elle ne voit qu'une seule chose dans la nature qui vaille la peine de l'occuper. César, Voltaire, le roi de Prusse, lui paraissent quelquefois dignes d'admiration, mais jamais dignes d'envie. Je vous ferais trop d'horreur si je vous disais le sort que je préférerais à tout ce qui respire. Oui, je suis comme Félix. J'entre entre des sentiments qui ne sont pas croyables. J'en ai de violents. J'en ai de pitoyables. J'en ai même de... Mais vous n'entendriez pas cette langue, et je vous ferais rougir d'avoir pu penser que mon âme avait quelque rapport avec la vôtre. Vous me faites trop d'honneur en m'élevant jusqu'à vous. Mais aussi, gardez-vous bien de me mettre à côté des femmes que vous estimez le plus. Vous les affligeriez et vous me feriez mal. Vous ne savez pas tout ce que je vaux. Songez donc que je sais souffrir et mourir. Et voyez, après cela, si je ressemble à toutes ces femmes qui savent plaire et s'amuser. Hélas, l'un me répugne autant que l'autre me serait impossible. Je sais mauvais gré à tout ce qui vient me distraire et me détourner. Il y a des objets que rien ne peut me faire perdre de vue. Ce que j'entends nommer dissipation et plaisir ne fait que m'étourdir et me fatiguer. Et si quelqu'un avait eu la puissance de me séparer un moment de mes malheurs, je crois que, loin de lui porter de la reconnaissance, je devrais l'en haïr. Qu'en pensez-vous, vous qui me parlez de mon bonheur, et qui me faites espérer que, s'il dépend de votre amitié, vous me l'accorderez? Non, monsieur, votre amitié ne fera point mon bonheur, parce que cela est impossible. Elle me consolera, elle me fera souffrir peut-être, et je ne sais pas si j'aurai à me louer ou à me plaindre de ce que je vous devrais. Pourquoi donc avez-vous l'air de vous justifier d'avoir lu le connétable? Il serait désobligeant de vous refuser au plaisir que vous pouvez faire et recevoir. Le roi de Prusse a écrit à M. d'Alembert une lettre charmante. Elle est pleine d'éloges de vous, et il se promet bien d'entendre le connétable. Je suis sûr qu'il en sera ravi. Cette tragédie est au ton de son âme à beaucoup d'égards. Adieu. Donnez-moi souvent de vos nouvelles et ne formez point le projet de m'écrire 4 mots. Gardez ce projet pour vos connaissances. Il y a même des amis qui en seraient contents. Mais moi, je suis si difficile à contenter. Vous me direz si vous avez reçu mes lettres. Lettre 11. De Paris, le 25 juillet 1773. Et non, ne vous y trompez pas. Les plus grandes distances ne sont pas celles que la nature a marquées par les lieux. Les Indes ne sont pas si loin de Paris que la date du 27 juin n'est éloignée de celle du 15 juillet. Voilà le véritable éloignement. Voilà les séparations effroyables. C'est l'oubli de l'âme. Cela ressemble à la mort, et cela est pis, puisque cela est senti longtemps. Mais n'allez pas croire que je vous fasse des reproches. Et, mon Dieu, je n'en ai pas le droit. Vous ne me devez rien, et moi je dois vous rendre grâce des marques de votre souvenir. Vous aurez été accablé de mes lettres à votre retour de Hongrie. Voilà la troisième adressée à Vienne. On a dû vous en envoyer deux ou trois de Berlin. Dans l'éloignement où vous êtes, il faut, s'il vous plaît, employer cette formule triviale. J'ai reçu telle lettre, etc. Je savais il y a longtemps, par le baron de Koch, officier général au service de l'impératrice, que les camps n'auraient pas lieu. On croit, ici, que l'empereur et le roi de Prusse se sont donné rendez-vous dans quelques villes de leur nouvelle possession. Mais vous aurez rempli le temps d'une manière utile. Ainsi, vous regretterez peu les camps. Quoi ? De bonne foi, vous voulez que je vous réduise à ma taille ? C'est donc parce qu'il vous est plus facile de vous plier qu'à moi de m'élever, et qu'à quelque mesure que je vous vois, vous resterez à la vôtre, qui est telle que peu de gens peuvent y atteindre. Mais en vérité, permettez-moi de ne pas regarder comme un effet de confiance ni d'amitié ce que vous me dites de votre caractère. Hélas, savez-vous ce que vous me confiez en me découvrant les inconséquences qui vous agitent? C'est que je suis une bête qui ne voit rien, qui n'observe rien. Car sans doute, si vous n'êtes ni dissimulé ni faux, j'aurais dû démêler ce que vous croyez m'apprendre de vous-même. Et voulez-vous que moi je vous apprenne une chose d'une science profonde? C'est que ni vous ni moi ne nous connaissons parfaitement. Vous, parce que vous êtes trop près et que vous vous observez trop, et moi, parce que je vous ai toujours vu avec crainte et embarras. Oh, si jamais je vous revois, je vous regarderai mieux. Il me semble que ma vue s'est raffinée. Ce que vous me dites sur la cause de vos courses continuelles est charmant. Cela est plein d'esprit et de grâce, et en voilà bien assez pour que cela puisse se passer de vérité. Je remplis ma jeunesse pour que ma vieillesse ne puisse pas me reprocher de ne pas l'avoir employée. Vous voyez bien que c'est l'avare qui, en laissant mourir de faim ses enfants, se justifie à lui-même sa dureté, en disant qu'il leur amasse du bien pour qu'ils en jouissent après lui. Soyons plus simples. Ne cherchons point de prétexte pour justifier nos goûts et nos passions. Vous allez au bout du monde parce que votre âme est plus avide que sensible. Eh bien, quel mal y a-t-il à cela? Vous êtes jeune, vous avez connu l'amour, vous avez souffert, et vous en avez conclu que vous étiez sensible, et cela n'est pas vrai. Vous êtes ardent, vous êtes passionné, vous seriez capable de tout ce qui est fort, de tout ce qui est grand. Mais vous ne ferez jamais que des choses de mouvement, c'est-à-dire des actions, des actes détachés. Et ce n'est pas comme cela que procèdent la sensibilité et la tendresse. Elles attachent, elles lient, elles remplissent toute la vie. Elles ne laissent place qu'aux vertus douces et paisibles. Elles fuient l'éclat. Tout ce qui les sépare et les éloigne de leur objet leur paraît malheur et tyrannie. Voyez, après cela, et comparez. Je vous l'ai déjà dit, la nature ne vous a point fait pour être heureux. Elle vous a condamné à être grand. Soumettez-vous donc. sans murmure. Je crois, du reste, tout ce que vous me dites de l'avantage de ce pays-ci sur tous les autres. Je ne sais si vous rapporterez de votre voyage le dégoût de voyager, mais je suis bien sûre que vous n'en rapporterez pas la possibilité de pouvoir vous fixer quelque part. Vous aurez jugé avec justice et justesse ce qui est bon, ce qui est meilleur, mais vous ferez comme les Italiens font de la musique, ils préfèrent la nouvelle à la bonne. Je vous demande pardon, je contrarie vos paroles, mais convenez que je suis bien au ton de votre âme. Vous voulez que je vous parle de la mienne? Voici son état. N'avez-vous jamais vu de ces malades attaqués de maux lents et incurables? Quand on demande de leurs nouvelles aux gens qui les soignent, ils répondent « Cela va aussi bien que son état le comporte. » C'est-à-dire, il mourra, mais il a quelques moments de répit. Voilà tout juste l'espèce de santé de mon âme. Au plus violent orage a succédé le calme. Sa disposition morale est telle que je la ferai selon mon souhait et selon mon cœur. Mais que sa santé est alarmante. Cependant, je suis sûre qu'il ne fait pas une faute de régime. Il aime la vie parce qu'il se plaît à aimer et à être aimé. Il n'y tient que par là. Oh, si vous saviez combien il est aimable! Oui, vous m'aimeriez un peu. Mais vous ne feriez pas grand cas de moi d'avoir été capable d'une distraction. Oh, qu'êtes-vous donc pour m'avoir détourné un instant de la plus charmante et de la plus parfaite de toutes les créatures? Oui, si vous le connaissiez, ou quand vous le connaîtrez, vous verrez que dans le jugement que j'en porte, il n'y a ni illusion ni prévention. Eh bien, est-ce assez pour vous montrer mon âme? Mon amitié est-elle passive, active ou indiscrète? Le chevalier d'Aguesseau vous aura mandé que j'avais perdu patience. Je lui avais envoyé demander de vos nouvelles. Dans ce moment-là, il n'en avait pas eu. Mais dès qu'il reçut une lettre du 8, il me manda que vous vous portiez bien. Et alors, je fus tenté de vous écrire, pour vous remercier de ce que vous aviez un ami qui avait pu me tirer d'inquiétude. Et puis, je trouvais qu'il valait mieux vous attendre. Oui, en effet, je veux vous attendre, et toujours. Pourquoi irais-je plus vite que vous? Je me fatiguerai, et je gênerai vos pas. Je ne veux plus qu'aucune affection agite mon âme douloureusement. C'est trop. Je ne sais pas comment je puis suffire à la dépense que je fais. Il est vrai que j'ai réuni toutes mes forces en un seul point. Toute la nature est morte pour moi, excepté quelques objets qui animent et remplissent tous les moments de ma vie. Je n'existe pour rien. Les choses, les plaisirs, la dissipation, la vanité, l'opinion, tout cela n'est plus à mon usage. Et j'ai regret autant que j'y ai donné, quoiqu'il ait été bien court, car j'ai connu la douleur de bonheur. Et elle a cela de bon qu'elle écarte bien des sottises. J'ai été formée par ce grand maître de l'homme, le malheur. Voilà la langue qui vous a plu. Elle vous a rapproché de l'endroit sensible de votre âme, dont la dissipation et le ton aimable des femmes de ce pays-ci vous éloignaient sans cesse. Vous m'avez su gré de vous ramener à ce que vous aviez aimé, à ce que vous aviez souffert. Oui, il y a une espèce de douleur qui a un tel charme, qui porte une telle douceur dans l'âme, qu'on est tout prêt à préférer ce mal à ce qu'on appelle plaisir. Je goûte ce bonheur ou ce poison deux fois la semaine, et cette sorte de nourriture m'est bien plus nécessaire que l'air que je respire. La comtesse de Boufflers m'a beaucoup parlé de vous et de ce qu'elle vous mandait. Elle vous aime parce que vous avez fait le connétable, et il y a assurément de quoi fonder son goût. Et moi, je vous aimerais bien mieux si vous n'étiez pas le connétable. Oh, combien j'ai l'âme petite et bornée. Je hais également les patagons et les lilliputiens. Mais que vous importe mon goût? Vous êtes bien aimable d'avoir pensé à grossir votre écriture, mais j'ai envie cependant de m'en plaindre. Cela m'a ravi quelques lignes. Au nom de Dieu, restez comme vous êtes, écrivez des pieds de mouche, faites le tour du monde, mais commencez par Paris. En un mot, ne changez pas un cheveu à votre manière d'être. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais elle m'est la plus agréable possible. Cette louange n'est-elle pas fade? Ne vous moquez pas de moi, je suis bien bête, mais je vous assure que je suis une bonne créature, n'est-ce pas ?